Le retour de Radio X.
Que je qualifierais de gnochon.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
J'ai même parlé de quasi-délit.
Radio X.
Oh là, ça va piquer la curiosité des auditeurs et aussi des auditrices. La belle visite que Mélanie nous a fait découvrir dans les derniers mois, c'est le docteur Louis-Olivier Gagnon, urologue en chair et en os en studio. Bonjour.
Salut, Danny.
Ça va bien?
Oui.
Hey, on parlait de ça en ouverture tantôt, le Viagra.
Oh.
Oh boy, hein, ça frappe.
Ben, c'est mal texté, hein? En tout cas, je peux
ça
te le dire.
Ça commence en Lyon.
Non, mais je disais que beaucoup de jeunes prennent le Viagra très tôt. Ça rajeunit quasiment à chaque année. Mais juste avant la première, est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un s'est présenté à toi en disant « je ne débande plus ». Ça, j'ai trop pris de Viagra en fin de semaine, puis je vis une expérience qui n'est pas le fun.
Ah ouais. Ça, c'est une super bonne, un super bon point. Ça, on appelle ça un priapisme. Donc, quand il y a une érection qui dure trop longtemps, donc souvent plus qu'une heure ou deux, ça, ça peut être très douloureux pour les patients. Puis c'est, ça devient une urgence médicale parce que sinon, ça peut briser, endommager le pénis.
C'est
mais une heure et deux,
hein?
Ça. Ouais. Ça a déjà été plus qu'une heure ou deux.
Oui, ouais, ben, techniquement, ça peut être quatre heures. Mais tu sais, après une heure ou deux, là, si ça dure, il faut que tu commences à te demander si tu vas aller à l'urgence.
Hey,
mais
là, c'est juste deux heures. Ça doit être quelque chose pareil.
C'est
ça. Là.
Parce que l'idée, c'est quand c'est une érection qui est non désirée. Là. C'est surtout ça. Là. C'est que c'est dur, puis c'est douloureux, puis c'est pas ce que tu souhaites. Là. Ça, c'est quand même super rare là, avec Viagra et Cialis. C'est vraiment plus, là, ça arrive souvent plus les gens qui utilisent là, les injections dans le pénis. Parce qu'une des options de traitement pour la dysfonction érectile, c'est les gens qui se font une injection dans le pénis avec un médicament avant chaque relation.
C'est donc, tu fais ça. Ou les acteurs porno.
Beaucoup
font ça. Ouais.
C'est ça. Dans les films 3X, les gars, ils prennent pas de chance là, parce que là, tu sais, ils veulent pas... causer de problèmes là, pendant la scène. Donc, souvent, vont utiliser là, les injections. Là, les médicaments les plus communs, là, c'est alprostadil ou Trimix. Là, c'est des médicaments qu'on met dans la seringue puis on s'injecte dans le pénis avant chaque relation.
Combien de minutes avant? C'est une demi-heure?
Ben, ça peut être comme une demi-heure avant. Okay. Puis, ça ressemble, là, les aiguilles, là, comme les gens qui sont diabétiques, là, qui s'injectent de l'insuline. Donc, ça, quand on n'a pas la bonne dose ou quand on en donne trop, ben là, ça peut causer là, du priapisme. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, là, les gens qui commencent ces médicaments-là, nous, on le fait vraiment tout le temps en clinique, sous supervision. Les premiers tests, on les fait venir, on fait l'injection nous-mêmes, on s'assure d'avoir la bonne dose, puis on va montrer aux patients comment se le faire par la suite. Si jamais la dose est trop grosse, bien là, on peut donner du Sudafed là, qui peut aider. Puis sinon, on peut injecter un antidote là, pour aller faire partir l'érection. Ça, avec Viagra et Cialis, c'est quand même très rare, ça peut arriver. Sinon, il y a tous les gens qui prennent de la drogue, là, surtout cocaïne, peut causer des problèmes de priapisme. Moi, j'ai déjà eu un cas là, d'un patient là, quand j'étais à l'Hôtel-Dieu de Lévis qui avait pris vraiment beaucoup de cocaïne. Puis on a eu beaucoup de misère à casser là, l'érection. Ça a pris parce que les premières étapes, là, c'est l'antidote, le Sudafed, l'antidote. Après ça, on met pour traiter là, le priapisme.
Ouais.
C'est d'aller mettre, d'aller drainer le pénis, comme d'enlever du sang, comme aller faire une prise de sang, mais dans le pénis, puis enlever là, du sang du pénis. Dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Il faut même aller faire une opération pour aller faire des trous dans le pénis pour aller enlever le sang.
Tabarouette.
Et lui, c'était très récalcitrant. Là. Ça l'a pris, là, je pense, un bon deux jours, là, lui corriger. Là.
Mais lui,
il avait pris beaucoup, beaucoup de cocaïne.
Mais il avait-tu pris, exemple, avant du Viagra ou du Cialis?
C'est pas nécessairement, non, c'est ça. Ben, dans la cocaïne, il y a un médicament là, qui peut causer. Là, ben, la cocaïne en tant que telle peut causer des problèmes.
Puis c'est quand on va se faire injecter. Là. Puis là, c'est sous votre supervision.
Oui, exact.
Là. Ton injection, ça c'est-tu assez vite? C'est-tu rapide?
L'injection peut se faire à la maison, là.
Oui, oui, par la suite. Oui.
Mais c'est parce qu'il dit que pour la première fois, vous assistez.
La première fois, on le fait sous supervision. Puis après ça, on trouve la bonne dose. On montre au patient comment le faire. Puis après ça, on fait la prescription. Puis le patient le fait chez lui. Mais les patients, ils prennent l'habitude, là, puis ils sont capables, puis ça peut être, ça peut fonctionner super bien. Ce qui est quand même drôle avec cette invention-là, c'est la façon que ça a été présenté aux urologues, parce que c'est un médecin qui a découvert ça en 1983. Lui, ce médecin-là, il se disait, c'est sûr qu'il y a un moyen d'obtenir une érection en s'injectant un médicament dans le pénis. Lui, il était convaincu de ça. C'est un médecin britannique. Puis lui, il a fait un peu comme les savants fous là, dans les films de Marvel. Il a essayé une trentaine de médicaments sur lui-même. Puis finalement, il en a trouvé un qui a fonctionné. Puis quand il est venu le temps de l'annoncer à la communauté des médecins, des urologues, au lieu de faire un article puis de publier dans les journaux, Il est allé au plus gros congrès américain, plus gros congrès d'urologie au monde, qui était aux États-Unis, le congrès américain d'urologie.
Il n'a pas fait ça live?
C'était en 1983 à Las Vegas. Avant sa présentation, il est allé à sa chambre d'hôtel. Il s'est injecté les médicaments dans son pénis. Il est allé faire sa présentation où est-ce qu'il a parlé là, de son projet. Il y avait des photos. Puis ça donnait que c'était des photos de son pénis. Déjà, les gens dans la foule, parce que ça, c'est devenu comme vraiment historique là, dans la communauté des urologues. C'était des photos de lui. Puis là, il trouvait que les gens n'étaient pas assez convaincus puis n'étaient pas assez excités de la chose. Fait qu'à un moment donné,
il s'est levé.
Il a vraiment baissé ses pantalons puis il a montré aux gens que là, finalement, il y avait une érection vu qu'il s'était fait injecter une demi-heure avant. Fait que le monde a été en émoi. Ça a fait un chaos. Sauf que La semaine d'après, les urologues ont commencé à utiliser le médicament dans leur clinique, puis ça a révolutionné le monde de la dysfonction érectile. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas vraiment de traitement. En 1983, il n'y avait pas de traitement pour la dysfonction érectile. Le Viagra est arrivé à la fin des années 90, Cialis plus récemment. Donc, ça a été comme le premier traitement là, vraiment là, reconnu puis qui fonctionnait. Donc ça a été une révolution là, pour la dysfonction érectile. Fait que ça a pris quelqu'un d'un peu spécial. Il a fait des tests sur lui-même puis qui a présenté ça de façon quand même assez, assez rocambolesque. Là.
C'est complètement fou, là, cette histoire-là. Mais ouais. Là, l'injection, ça fonctionne à tout coup. Qu'il y ait ou non stimulation, contrairement, je pense, à Cialis et Viagra, ou même si tu prends ça, si tu n'as pas de stimulation, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Hein?
Oui, ouais. Ben, c'était un petit peu ça le point du gars qui a fait la présentation. Il s'est dit, moi, ça fait une demi-heure, je suis en train de présenter, je suis aucunement stimulé, puis j'ai une érection là, présentement. Donc, c'est exactement ça, Mélanie. Le point avec les injections, c'est qu'on n'a pas besoin d'être stimulé ou non. On peut être stressé ou pas stressé. Ça devrait marcher. Est-ce que ça marche 100% du temps? Non, parce qu'il y en a des patients que leurs vaisseaux sont trop endommagés, ils ont une fuite veineuse, ils ont des problèmes. C'est pour ça qu'on fait les tests dans notre clinique, puis on va ajuster le médicament, la dose. Des fois, ça ne fonctionne pas. L'étape d'après, ça serait l'implant pénien, là, la prothèse pénienne. C'est ça. Donc, ça ne fonctionne pas dans tous les cas, mais on n'a pas besoin d'être stimulé versus Viagra, Cialis. Où est-ce que ces médicaments-là vont aider à les chances à avoir une érection quand on est stimulé? Mais quand on prend la pilule de Viagra, on n'a pas automatiquement l'érection. Il faut avoir une stimulation. Là. Puis dans certains cas, si le patient est vraiment beaucoup stressé, même en prenant le Viagra ou Cialis, ça ne sera pas suffisant.
Puis est-ce que tu vois ça de plus en plus chez les jeunes, des demandes pour Viagra, Cialis, injection?
Oui. Ah, oui.
Parce qu'on parlait des sites pornographiques puis de la demande qui est à l'infini le web. Il y a plusieurs jeunes qui, lorsque ça arrive pour la première fois, ils ont tellement consommé de porn dans leur vie qu'ils ne réalisent pas c'est quoi un peu la réalité là-dedans. Fait que c'est difficile pour ces jeunes-là, puis ils en demandent de plus en plus.
Oui, bien, la dysfonction érectile, on a des jeunes, ben, on a des gens de 20 à 80 ans là, qui viennent chez nous. Puis effectivement, on a beaucoup, beaucoup de jeunes. C'est sûr qu'il y a une logique aussi de stress puis d'anxiété. Puis quand on est dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne, bien, le stress est là aussi. Puis moi, j'ai compris, là, tu sais, les gars, on a quand même une pression de performance, là.
Ouais.
Donc, ça peut être stressant. Donc, il y en a des patients là, qui viennent nous consulter. Puis de prendre temporairement Viagra ou Cialis, ça peut aider. Mais c'est sûr que les jeunes, souvent, là, quand on leur propose des médicaments, la première chose qu'ils nous disent, c'est « Est-ce que je vais être obligé de prendre ça à vie? » T'sais? Fait que des fois, c'est juste de le prendre temporairement, le temps de regagner confiance, puis le temps de développer le lien avec la conjointe, puis après
aussi,
ça, de l'enlever.
Ouais.
Mais il y a des nouvelles technologies régénératives qu'on appelle, qui peuvent aider aussi à avoir des meilleures érections. J'en parlais à l'émission La Sexploratrice vendredi soir, de la nouvelle technologie qu'on vient d'avoir au Clinique Marois, qui est avec la radiofréquence, qui s'appelle Apex Radiofréquence, que dans le fond, au lieu de prendre une pilule, c'est un petit peu comme une béquille, si on veut, ben on essaie de redonner de la force au pénis avec de la radiofréquence là, qui va aider les cellules à se régénérer, puis le pénis à reprendre la force. Donc, c'est des technologies qui sont vraiment en croissance, là, comme celle-là, l'Apex Radiofréquence, ça fait 3 ou 4 ans que c'est sorti aux États-Unis, là, c'est la folie furieuse. Puis là, on vient de l'avoir il y a 2 mois, là, la demande est très grande. Fait que c'est sûr que les gens, des fois, ils aiment ça avoir quelque chose qui traite la cause au lieu d'avoir là, une pilule qui va être plus comme une patch, là, si on veut. Là.
Ce qui est intéressant avec cette technologie-là, c'est que oui, ça aide pour la dysfonction érectile, mais aussi pour les femmes qui voudraient raffermir, rajeunir.
Oui. Ben, c'est ça.
La fermeté là, au niveau de leur...
C'est ça. Parce que ce qui est le fun avec ces nouvelles technologies-là, c'est que c'est des nouvelles technologies là, qui sont appliquées pour la dysfonction érectile, mais c'est des technologies qui sont là depuis longtemps. Tu sais, la radiofréquence en tant que telle, c'est utilisé pour le cancer depuis longtemps à des intensités plus élevées, là, mais pour traiter le cancer du rein, cancer du foie. C'est utilisé en gynécologie, mais pour les femmes, la radiofréquence pour le vagin, pour traiter la sécheresse vaginale, la laxité vaginale, là, les femmes qui ont accouché, puis que c'est moins ferme un peu. Le lichen scléreux chez la femme, il y en a qui ont des lésions là, qui peuvent être avoir de la démangeaison, de la douleur. Donc ça, c'est, on l'utilise, là, nous, là, à la clinique, là, depuis 4 ou 5 ans, la radiofréquence pour au niveau vaginal et vulvaire. Mais dans ce cas-ci, c'est plus invasif avec des aiguilles, là, des micro-aiguilles là, avec de la radiofréquence, tandis que dans l'application qu'on a pour la dysfonction érectile, il n'y a aucune aiguille. C'est vraiment tout simplement en surface avec une sonde là, pour appliquer.
Messieurs vont travailler après. Là.
Ah oui. Oui,
c'est ça. Ils viennent pour 15 minutes, ils repartent après. C'est une fois par semaine pour 6 semaines. Puis ça permet de régénérer les vaisseaux et le collagène. Donc, pour le vaisseau, les vaisseaux, ça améliore le flux sanguin. Puis pour le collagène, ça permet au pénis d'être plus rigide, d'avoir une meilleure tunique albuginée. Donc, prévenir la fuite veineuse puis avoir une érection plus rigide. Fait que c'est vraiment super intéressant.
Y a-tu des aliments naturels que ça favorise une érection? T'sais, tu sais que tu vas recevoir, puis là, ou tu sais que ce soir, c'est ton soir. Y a-tu quelque chose?
Il n'y a pas vraiment de produits magiques en termes de suppléments. Ça va être un peu plate, mais c'est vraiment les conseils généraux qu'on donne à tout le monde, que ce soit pour dysfonction érectile ou problème hormonal d'andropause, exemple. C'est les conseils généraux de bien manger, t'sais, suivre le guide alimentaire canadien, s'entraîner, perdre du poids, ça aide. Ne pas fumer, pas prendre de drogue, prendre l'alcool en modération. Ça, c'est comme la première étape pour le traitement de ces deux pathologies-là, là, que ce soit dysfonction érectile ou andropause, c'est de prendre soin de soi-même. C'est sûr que ça aide. Donc, c'est ce qui est le plus payant. Il n'y a pas de supplément ou de produit magique là, pour la dysfonction érectile.
Ceux qui ont de l'addiction là, sur les films, ils sont tout le temps sur Internet, là, puis ils regardent de l'érotisme, de la porno, c'est-à-dire. Là.
Ouais.
Ça, le vois-tu de plus en plus des gens qui viennent consulter
ben,
ou c'est plus
m'en
un
parle
sexologue?
Pas spécifiquement, ou... là, t'sais, c'est parce que faut comprendre, c'est que les gars sont déjà super stressés là, quand ils viennent nous voir. Là. T'sais, moi,
ouais, c'est déjà une grosse étape pour eux autres.
Moi, c'est vraiment comme mon pain puis mon beurre. Je suis super habitué et j'ai aucune gêne. Mais les patients, là, quand ils viennent, il y en a pour qui c'est vraiment déjà une grosse étape là, de venir puis de parler de dysfonction érectile. Fait que moi, j'en ai pas vraiment... Là, puis, c'est sûr que ça ne change pas énormément à à nos traitements. Là. Fait que, je ne vais pas aller comme poser des questions spécifiquement pour ça. Mais c'est sûr que théoriquement, là, quelqu'un là, qui utilise beaucoup de porno, ben là, ça peut nuire à la performance là, pendant les relations. Là. Mais ça va être un petit peu plus le travail d'un sexologue.
Sexologue.
Je sais qu'il y a un sexologue qui va à l'émission La Sexploratrice, là, Charles Lehoulier. Fait que dans certains cas, moi, je réfère là, des patients là, à un sexologue là, quand il y a des problèmes plus comportementaux, si on veut. Là. Fait que... C'est sûr qu'on peut approcher cette maladie-là de plusieurs angles. Là. Moi, c'est plus le côté médical, mais il y a un côté plus psychologique aussi. Là. Ça, c'est les sexologues qui sont meilleurs pour ça. Là.
On te demande par texto, si tu n'as pas de dysfonction érectile et tu n'as pas ce problème-là dans la vie, que mettons un soir, Viagra, Cialis, c'est quelque chose qui peut être dangereux pour ton danger?
Ben, ça peut pas nécessairement être dangereux, là, mais premièrement, ça va être difficile d'avoir une prescription là, d'un médecin pour ça. Ce qui est vraiment l'avenir, là, ben, j'en ai déjà parlé là, avec la radiofréquence, le but, c'est d'essayer d'améliorer les érections. Comme avec l'Apex radiofréquence, le but, c'est de donner un petit boost aux érections, d'améliorer les érections en traitant la cause. Avec un médicament, si on a déjà des bonnes érections, on va se ramasser plus avec les effets secondaires parce qu'il y a quand même des effets secondaires là, avec Viagra, Cialis, particulièrement le Viagra. Il y en a qui vont avoir mal à la tête, même la vision bleue. La pilule est bleue, là. Mais c'est, sérieusement, il y en a qui ont la vision bleue. Le Cialis, qui a un effet un petit peu différent, lui, ça va être plus des douleurs musculaires. C'est pour ça que souvent, là, les gens qui prennent des pilules, ça va être plus une petite dose de Cialis à chaque jour qu'on va prescrire, qu'on prend comme n'importe quel autre médicament, là, comme un médicament pour l'hypertension. Là. Donc, on va le prendre la petite dose à chaque jour. Au lieu de prendre le 20 mg qu'on prend avant chaque relation sexuelle, ben là, on va prendre un 5 mg à chaque jour qui s'accumule dans le sang puis qui équivaut à un 20 mg, mais maintenant en tout temps. Donc, on n'a plus besoin de stresser de prendre la pilule avant la relation. On le prend tout le temps, fait qu'on est comme tout le temps prêt. Fait que c'est ça qu'on va favoriser.
Tout le temps prêt, c'est un grand mot, là. Ça veut-tu dire que tu vois passer une collègue qui est excitante ou peu importe, là, ta voisine qui est dans le sport?
Ouais, là, ça va pas bien.
Ouais, ça va pas bien, tu perds le contrôle?
Techniquement, en prenant la petite dose de Cialis à chaque jour, si tu es stimulé, tu as plus de chances d'avoir une érection. C'est ça l'idée.
Plus que normal, quelqu'un qui ne consomme pas.
Oui, ben, c'est ça.
Ah oui?
Ben,
t'es surstimulé.
C'est juste, si t'es stimulé, t'as plus de chances d'avoir une érection. C'est ça l'idée là, de la pilule.
OK.
Mais ben, là, ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps être en érection. Là.
Y a-tu des effets secondaires à prendre Cialis ou.
Oui, ben, c'est ça. Ben, le Cialis, particulièrement, c'est plus les douleurs musculaires. Fait qu'il y en a des fois qui vont se plaindre là, des douleurs dans le dos, des douleurs dans les cuisses. Mais en prenant une petite dose à chaque jour, ça diminue le risque là, d'avoir les effets secondaires versus prendre la grosse dose. Là.
Parce que la sensation de douleur, là, moi, j'avais essayé parce que Jean-Luc de Planetix nous amenait du Forta. Ça m'arrivait, ça.
Ouais.
Le lendemain, je me disais, voyons, comment ça, j'ai mal dans le dos tout d'un coup.
Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Mais ça, c'est avec le Cialis particulièrement. Ben, c'est le mécanisme, là, c'est un inhibiteur de la phosphodiestérase. Puis là, ça va aller jouer au niveau du muscle. Ouais, c'est ça. Puis
que moi, j'ai arrêté de prendre ce poste. C'était pas Forta, ça en était un autre là, que j'avais essayé.
Ouais, mais il y en a qui ont plein de noms. Là.
Ouais.
C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui se plaignent de maux de tête. Là. C'est surtout ça. Là. Mais justement, en prenant la petite dose à chaque jour, on a moins de risques d'effets secondaires. C'est vraiment ça l'idée.
Okay. Mais là, il faut normaliser aussi le fait qu'une fois de temps en temps, on peut se dire que c'est quand même normal d'avoir... Tu sais, l'anxiété de performance fait face parfois à ce qu'on se retrouve avec une nouvelle relation. Ça peut être juste normal de ne pas avoir d'érection. Il ne faut pas nécessairement tout de suite viser là, des thérapies ou aller consulter.
Ben c'est sûr qu'il y a de plus en plus de pression, je pense, là, sur les hommes là, avec la performance. Là, puis les gars, ils stressent bien gros avec ça. Là, c'est normal. Mais ça peut arriver de ne pas tout le temps être au top. Là, ça arrive. Mais c'est sûr qu'au début d'une relation, quand tu as moins le lien de confiance avec la personne, je pense qu'il y a beaucoup de... Ils veulent pas prendre de chance. Puis c'est sûr qu'au début d'une relation, il y a plus de stress, c'est normal. T'es moins à l'aise avec la personne. Fait que dès que le stress embarque, on dirait que quand il y a une mauvaise performance, ça devient comme un cercle vicieux. Là, moi, je fais la comparaison avec les joueurs du Canadien. Là, quand il y a, mettons, Zachary Bolduc, il y a de la misère là, à compter des buts, ben, à un moment donné, c'est comme de mal en pis. Là, à chaque game, il est de plus en plus stressé, il joue avec le bâton plus... Il est plus tendu, fait que il y a moins de chances de compter, en fait, là, plus tu es tendu. Fait que c'est ça. Des fois, d'aller prendre un médicament ou de faire un traitement régénératif, ça peut donner un petit boost de confiance puis aider dans ce temps-là.
L'andropause.
Oui.
On parle beaucoup de la ménopause, mais l'andropause, les hommes qui nous écoutent, parce que j'ai fait un sondage sur l'âge, là. Il y en a des gars dans 45, 55, 65. L'andropause, ça arrive vers quel âge à peu près? Puis c'est quoi les symptômes?
Bien, c'est ça. Ça arrive souvent aux alentours de 40 ou 50 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est à partir de 30 ans, chez l'homme, le taux de testostérone baisse de 1 à 2 % par année. Il y en a que ça baisse plus, il y en a que ça baisse moins. Puis il y en a que c'est vraiment associé avec des symptômes. Tu sais, les symptômes associés avec la baisse de la testostérone, tu sais, ça va être de la fatigue, manque d'énergie, manque de libido, des dysfonctions érectiles. Moins de performance musculaire au gym, moins de force musculaire. Fait que c'est de plus en plus commun. Puis avant, on ne traitait pas ça. Avant, tu sais, on n'accordait pas d'importance à ça. Mais maintenant qu'il y a plein de traitements disponibles, tu sais, il n'y a pas vraiment de raison là, de passer à côté. Là. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de patients. Là. C'est une bonne partie de notre clientèle là, qui est pour l'andropause. Puis il y a beaucoup d'interactions entre les deux, là. Dysfonction érectile puis andropause. Les deux sont interreliés. Quand on traite un patient pour dysfonction érectile, c'est sûr qu'on va vérifier la testostérone. Quand on traite quelqu'un pour andropause, c'est sûr qu'on va lui demander pour les érections. Puis souvent, là, faut mélanger les deux traitements ensemble. Donc, mais c'est ça. Ce qui est le fun pour l'andropause, c'est qu'il y a plein de traitements. On peut parler d'injection avec une seringue une fois par semaine dans le muscle de la cuisse ou dans le gros autour du nombril. Ça, c'est un peu le traitement classique là, avec de la testostérone synthétique qu'on appelle énantate ou cipionate.
Il se passe quoi rapidement quand tu commences à faire ces traitements-là?
On commence le traitement. Souvent, c'est le pharmacien qui va montrer là, comment faire l'injection en tant que telle. Il faut que le patient prépare sa seringue à aller chercher la testostérone dans la bouteille, se l'injecte. Puis par la suite, nous, on fait des suivis avec des prises de sang régulières au début pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Puis que la testostérone monte au niveau qu'on désire. Parce que le but, c'est de monter la testostérone à la limite supérieure de la normale. On ne veut pas faire des doses supra-thérapeutiques. Tu sais, les bodybuilders là, qui font là, des stéroïdes, eux autres, ils prennent des doses jusqu'à 10 à 100 fois plus que ce qu'on donne. Fait que ça met leur vie en péril. Là. D'ailleurs, il y a des études qui disent que les bodybuilders là, qui prennent de la testostérone puis des stéroïdes au noir, il y a une espérance de vie de 15 à 20 ans de moins. Parce que dans les effets secondaires de la testostérone, c'est ça, les gens ne savent pas beaucoup. Puis ça, c'est un pas mal plus gros fléau que des jeunes qui prennent du Viagra. Tu me demandais pour les jeunes qui prennent du Viagra. c'est les jeunes qui prennent des stéroïdes puis de la testostérone dans les gyms entre 20 et 30 ans. Ça, c'est un beaucoup plus gros fléau. Parce que ça, quand on fait là, des traitements comme ça au noir, là, on peut scraper vraiment notre axe hormonal puis devenir par la suite dépendant de testostérone après ça le restant de nos jours. Puis des fois, on n'est pas capable d'aller retrouver, là, d'aller traiter les symptômes. Ça arrive, là, des gens qui ont vraiment pris des grosses doses de testostérone puis stéroïdes, qu'on a beau leur donner de la testostérone puis à côté la limite supérieure de la normale, ils ont encore des problèmes de libido, tout ça. Des fois, on n'est pas capable de retrouver vraiment la qualité de vie qu'il y avait avant. Donc c'est ça. Mais l'andropause, c'est vraiment un problème répandu. Puis maintenant, il y a plein d'options de traitement, donc il n'y a pas de raison de passer à côté.
Très intéressant. On va te réinviter.
Ben oui, ça fait plaisir de venir. Merci de l'invitation.
Heureusement qu'ils sont là, hein, parce oui. qu'au public, là, il y a beaucoup de médecins qui ne vont pas plus loin que « Ah, ça doit être une dépression ». Ils ne vont pas chercher. Le questionnaire à dents aussi, mais ouais. si vous pouvez aller chercher ça sur le web pour déterminer, puis après ça, allez vous voir.
Merci beaucoup, monsieur
le
docteur.
Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de venir. N'hésitez pas.
Toujours hyper intéressant, puis ça réagit beaucoup aussi. Sur l'Internet. Merci.
Hey, merci.
Le retour de Radio X.
418-670-9098.
Radio X.